Bonjour Jérôme Guedj.
Bonjour.
Comment allez-vous? Est-ce que vous avez digéré la défaite au départemental? On vous a vu au soir du deuxième tour, meurtri et peut-être un peu amer même.
La colère et l'émotion du soir se sont estompées bien évidemment, mais l'amertume et puis...
L'analyse reste la même.
L'analyse reste la même, incontestablement, sur le fait que pour la deuxième fois en deux ans, après les élections municipales de mars 2014, il y a eu une expression tonitruante de la part des électeurs, et notamment des électeurs de gauche, de ceux qui avaient fait la victoire de François Hollande au soir du 6 mai 2012, qui par leur vote et surtout leur non-vote, leur abstention, ont continué à nous exprimer leurs doutes, leurs inquiétudes et aussi eux-mêmes leur colère au regard notamment des résultats sur le terrain économique et plus largement de la perception de la politique gouvernementale. Et donc, c'était moins une colère personnelle. D'abord, c'est frustrant de perdre une élection quand ça échappe au ressort dont on dispose. Moi, pendant cette campagne électorale, on m'a plus parlé de retraités qui sont rentrés dans l'impôt ou qui ont vu leur retraite gelée ou amputée que du bilan du Conseil général en matière de tarification sociale dans les cantines ou de création d'un service public de maison de retraite. C'est-à-dire qu'on ne me parlait pas de l'action du département, mais du contexte national. Et donc, ma colère était aussi tournée de manière positive vers l'avenir en disant, si on ne veut pas que ces élections départementales soient une gigantesque répétition de l'élection présidentielle de 2017, alors il est urgent de réagir. Il est encore possible de réussir ce quinquennat. C'est un message adressé à l'exécutif.
Réussir le quinquennat, il reste deux ans, ça commence à faire court.
Hein. Oui, mais il reste donc deux ans. Voilà, ouais. Tant que c'est pas fini.
Vous avez l'impression, alors justement, vous avez l'impression que le gouvernement, le président de la République, ont compris, ont tiré les leçons de cette nouvelle défaite. Vous disiez la deuxième en deux ans, mais c'est la troisième aussi après. Les européennes,
oui, mais oui. Vous avez raison. C'est même la quatrième si on y ajoute les élections sénatoriales et la perte du Sénat à l'automne dernier. C'est toute la difficulté et l'enjeu du moment. Il y a des signaux, il y a des frémissements quand j'entends au lendemain de ces élections le Premier ministre et le Président de la République dire qu'il faut mettre l'accent sur l'investissement public et l'investissement privé pour soutenir l'activité. Je dis banco sur le constat, c'est celui que nous portons depuis un moment, en disant que c'était moins une baisse aveugle, indifférenciée du coût du travail à toutes les entreprises qui allait être un facteur de reprise de l'activité, mais plutôt soit le soutien à la consommation, mais aussi le soutien à l'investissement. Après, on peut débattre et discuter de l'intensité de la mesure, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle est assez massive, est-ce qu'elle est assez immédiate.
Et la proportion public-privé aussi dans l'investissement.
Et la proportion public-privé, on sait qu'il y a des ressorts immédiats. J'étais jusque récemment président d'un département qui investit et nous savons à quel point l'investissement local des collectivités est déterminant pour soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et c'est de la dépense publique, de l'investissement public qui se transforme immédiatement en de la commande privée et de l'emploi privé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui souffrent considérablement dans la période.
On a appris hier qu'un nouveau fleuron de l'industrie française est sur le point de passer sous contrôle étranger, Alcatel, racheté par Nokia. Est-ce que c'est, comme le dit Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, une occasion de former un leader européen, ou est-ce que c'est une nouvelle défaite pour la France?
Il faut faire attention. J'ai le souvenir au moment de la fusion d'Alcatel et Lucent qu'on nous disait qu'on allait fabriquer un champion mondial avec le rapprochement du français et de l'américain. Aujourd'hui, il faut être vigilant à la fois parce qu'il y a des enjeux de souveraineté et d'indépendance au regard des prérogatives et des missions d'Alcatel. Et puis aussi, le finlandais Nokia, sa stratégie industrielle, vérifier sa compatibilité avec la stratégie d'Alcatel. Et puis, permettez-moi, je parlais de l'Essonne. Alcatel a son siège dans l'Essonne. On a nausé. On a déjà vu ce que certains éléments de rapprochement et de fusion pouvaient avoir, notamment sur les enjeux de recherche. Donc voilà, vigilance dans ce type de projet. Mais moi, je suis... toujours intéressé quand on parle de construction de champions européens, mais il faut voir dans quelles conditions et notamment de soutenabilité financière.
Les députés UMP et UDI ont dénoncé hier à l'Assemblée nationale la décision du Premier ministre de ne pas soumettre à un débat et à un vote, contrairement aux années précédentes, le document sur la stabilité budgétaire qui va être remis très prochainement à la Commission européenne. Est-ce que vous le déplorez aussi ?
C'est-à-dire que ces questions de trajectoire budgétaire et de respect d'ailleurs du traité budgétaire que nous sommes quelques-uns à avoir contesté à l'automne 2012, c'est pourtant les questions qui surdéterminent l'ensemble des choix de politique économique parce que nous plaçant dans le cadre budgétaire européen. Donc moi, je suis toujours favorable à ce qu'on puisse avoir un débat sur les questions budgétaires européennes. Nous avons constaté quoi depuis le début de ce quinquennat notamment? Que mois après mois, on a obtenu, en tous les cas, et en 2013, en 2014, un report du respect des règles de déficit budgétaire voulues par la Commission européenne. Heureusement. Parce que là, pour le coup, il aurait fallu aller à marche forcée, encore plus fortement, dans la réduction des dépenses publiques et des déficits publics. Donc moi, je préférais, plutôt que d'avoir cette impression de le faire dos au mur en donnant des signaux et des gages à la Commission européenne, de pouvoir sereinement dire que le choix des Français, c'est de pas mourir guéri, d'une certaine manière, et de, en tous les cas, desserrer la pression et ne pas sacrifier, justement, le caractère proactif des certaines dépenses publiques en matière de soutien à la consommation, et on l'a évoqué en matière de soutien à l'investissement.
Cette décision de Manuel Valls de n'organiser donc ni débat ni vote, elle est faite pour éviter un nouveau camouflet des frondeurs.
Mais les frondeurs, qui sont plutôt des éclaireurs, appelons-les ainsi, ne cherchent pas à infliger des camouflets, ils cherchent à faire vivre des débats.
Manuel Valls le perçoit comme ça.
Oui, mais il a tort. Il a tort. Quand Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, dit à juste titre que mieux vaut vivre avec 4% de déficit budgétaire, de déficit public, qu'avec 4 degrés de plus, évoquant l'importance du sujet sur la transition énergétique, qui nécessite des moyens précisément pour mettre en œuvre tout cela. Il a raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire des choix, il y a des arbitrages. Est-ce que c'est le chômage ou le respect des règles maastrichtiennes de déficit budgétaire? Est-ce que c'est la transition énergétique et la préservation de notre cadre de vie et de l'environnement? Ou c'est justement la satisfaction des agences de notation et des marchés financiers à court terme? Ces choix-là, ils sont importants et le débat aurait été utile.
Donc, mais vous pensez que Manuel Valls a voulu éviter le vote hostile des frondeurs?
On voit bien dans la période qu'il y a un peu une petite stratégie de l'édredon pour éviter de mettre sur la table ces sujets qui fâchent, considérant que leur exposition et leur caractère public est nocif. Au contraire, je pense que c'est utile pour faire avancer les choses. C'est ce qu'on va faire notamment dans le cadre du congrès du Parti Socialiste.
Alors justement, les grandes manœuvres ont commencé dans la perspective du congrès. Est-ce que vous regrettez le ralliement de Martine Aubry à la motion du premier secrétaire?
J'aime pas les termes.
Certains ont du mal à comprendre, compte tenu du discours qu'elle tient depuis des mois sur la politique du gouvernement.
Vous avez raison de rappeler que depuis plusieurs mois, Martine Aubry a contribué, avec d'autres, à éclairer justement sur les conséquences de ses choix de politique économique. Elle a été très vindicative sur la question du travail dominical et de la loi Macron, très claire sur les conséquences de la baisse des dotations aux collectivités locales ou sur la baisse du coût du travail.
Alors qu'est-ce qui la motive aujourd'hui,
etc. Donc moi, j'aime cette Martine Aubry qui permet de faire vivre ce débat. Après, elle fait un choix. Moi, je respecte les choix. J'aurais
un
préféré.
Un choix que vous ne comprenez pas.
Oui, parce que en cohérence, je pense qu'il y a plus de convergence avec ce que nous portions. Après, voilà. Et moi, je veux pas un congrès bisounours dans lequel on n'assume pas les divergences et les débats qui existent à l'intérieur du Parti Socialiste. Je le redis, quand je lis aujourd'hui dans la motion de Jean-Christophe Cambadélis, qui est signée par tous les membres du gouvernement, qu'ils sont désormais opposés au travail dominical, à l'extension du travail dominical, je dis chiche, il faut donc en cohérence retirer ce volet de la loi Macron lorsqu'elle va venir en deuxième lecture. Si c'est pas le cas, alors on est dans l'enfumage.
Merci Jérôme Guedj, bonne journée.
Merci.